au 99.1-88.9-CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 11 mai, j'espère que vous avez passé une belle journée. 11 degrés actuellement au cœur de Lanaudière. À l'émission aujourd'hui, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, avec qui il sera question d'eau potable. Avec Pierre Paquette, on parle de l'éventuel référendum sur l'indépendance de l'Alberta et de la loi sur la clarté référendaire. Pierre-Luc Bellerose sera avec nous, maire de Joliette. Il sera question d'une étude sur les inondations. Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, également avec nous. On va revenir sur les problèmes de stationnement au centre-ville de l'Assomption. Mais tout d'abord, jusqu'au 16 mai, c'est la semaine de la police et c'est l'occasion de se familiariser avec ce travail des policiers, policières. Et certaines organisations publient sur leur site web, là, d'ailleurs, des activités ouvertes aux citoyens. François Morin en discute avec le ministre Yann Lafrenière, qui est lui-même, il faut le rappeler, un ex-policier qui constate que la profession, avec le temps, a pas mal changé.
Alors, Yann Lafrenière, on est en pleine semaine de la police et c'est important là de comprendre le travail des policiers et surtout de le valoriser parce que ça a changé au fil des années.
Oui, absolument. C'est la 55e édition et cette semaine, c'est au cœur de l'action, l'humain avant tout. Vous comprendrez qu'avec mon emploi passé comme policier, c'est une semaine qui est extrêmement importante pour moi de connaître les réalités policières puis connaître les humains derrière ce travail, derrière l'uniforme, des hommes et des femmes là qui portent l'uniforme à chaque jour pour assurer notre sécurité. Alors, c'est le moment de reconnaître leur travail puis de s'intéresser à ce qu'ils font.
Parce que la perception du public a probablement changé comme le travail a évolué au fil des années, parce que faut quand même pas s'en cacher, c'est qu'à certains moments, là, les services policiers ont mauvaise presse.
Alors, c'est un travail qui est critiqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui est coercitif, alors c'est normal. Je veux dire que c'est normal d'être critique envers la fonction policière. Mais d'un autre côté, moi, je peux vous dire, comme représentant des citoyens, dans mon comté, ce que j'entends sur le terrain, les gens apprécient beaucoup, beaucoup le travail policier. On parle moins des fleurs, on parle plus des pots. Mais je peux vous dire que dans le travail policier, il y a des gestes incroyables. Et aujourd'hui, à Nicolette, on va être assemblés pour trois choses. On fait une grande annonce, une annonce importante avec la première ministre. Deuxièmement, on va exercer notre devoir de mémoire, c'est-à-dire de se rappeler les 191 policiers et policières qui ont donné leur vie pour les citoyens du Québec. Et on a des policiers qui ont fait des actes héroïques. Entre autres, on a deux policières de Montréal là qui sont intervenus dans un contexte de violence conjugale, qui ont pu sauver une femme, son enfant, le nouveau conjoint qui était armé d'un couteau de chasse. La policière a été poignardée à 11 reprises. Et malgré tout ça, ils ont réussi à maîtriser le suspect. Alors, c'est ce genre de geste héroïque qu'on va souligner aujourd'hui et remercier tout l'ensemble des policiers et policières pour l'aider.
Bon, puis parmi les policiers et policières qui ont péri, c'est passé près de nous, quoique c'est en Mauricie, mais ça s'est quand même passé près de Lanaudière, à Louisville. Maureen Brew, c'est un cas dont on va se souvenir longtemps.
C'est un cas qu'il ne faut jamais, jamais oublier. La devise « tomber, mais jamais oublier », elle est importante comme société. On doit se rappeler de ces hommes, ces femmes qui ont fait le sacrifice ultime. Et oui, Maureen Brough, on se rappellera tous de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, on va faire une annonce, un changement important dans notre façon d'exercer notre devoir de mémoire. Comme ça, les citoyens qui vont circuler au Québec vont pouvoir se rappeler de nos policiers, hommes et femmes, là, qui ont laissé leur vie.
On peut avoir plus de détails concernant cette annonce?
C'est qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à renommer des viaducs au nom de policiers et policières qui sont décédés dans l'exercice de leur fonction. Et de façon très symbolique, le premier viaduc sera le viaduc Maureen Brough.
Et faut-il le rappeler également, quoique c'est souvent dans l'actualité, les policiers ne font pas qu'appliquer la loi, mais doivent composer là, justement avec des individus qui ont des problématiques de santé mentale. Et là, on devient à la fois psychologue et policier.
Vous savez, le travail de policier a changé beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour les policiers policières. Hier, j'étais sur le terrain avant le match des Canadiens et je les voyais se préparer. Et vous savez à quel point c'est rendu complexe. 30% des appels dans certaines communautés, là, ce sont des appels reliés à des enjeux de santé mentale. Donc, on leur demande d'agir avec précision face à des gens qui sont désorganisés. C'est pour ça qu'avec la santé, là, on va travailler le règlement P38 pour donner des bons outils aux policiers. Récemment, avec notre projet de loi qu'on a passé à Québec, on a donné des bons outils aux policiers aussi pour lutter au crime organisé, pour être capable de stabiliser des manifestations, pour pour être capable aussi de prévenir le crime. Alors vraiment, les bons outils aux bonnes personnes. Et cette semaine, par la semaine de la police, mais prenons le temps un peu de s'intéresser à ceux et celles qui assurent notre sécurité.
Maintenant, tandis que je vous ai au bout du fil, là, je peux pas m'empêcher de parler du dossier de la potentielle fusion entre les services de police de Repentigny et l'Assomption-Saint-Sulpice. Je peux comprendre que le ministère s'en mêlera pas nécessairement, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut avoir, c'est la meilleure desserte possible au meilleur coût pour la population.
Monsieur le maire, vous savez, je parlais d'un nouveau projet de loi là, qu'on a passé, qui était le 2 avril dernier, qui permet à des communautés de mutualiser. Il y a aussi la possibilité de régionaliser, et ça, on a plusieurs régies de police au Québec. On est rendu avec 28 sûretés municipales, donc il y a la possibilité de régionaliser aussi. Clairement, ça sera aux gens politiques du coin de prendre leurs décisions, mais nous, on sera là pour les supporter. Mais sachez aussi que maintenant, il y a la possibilité de mutualiser, c'est-à-dire que deux municipalités voisines avec des corps de police différents peuvent mutualiser, mettre en commun des ressources. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on donne aux municipalités.
C'était le ministre Yann Lafrenière, donc vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre des responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Yann Lafrenière qui a pratiqué aussi le métier de policier. Il était policier, si vous me passez l'expression, là, à l'époque des grosses polices à moustaches. Et ça a pas mal changé depuis ce temps-là. Je vous rappelle que jusqu'au 16 mai, ben, c'est la semaine de la police. Dans un moment, le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED. 398-7433, podiatrejoliette.com.
Le Théâtre de l'œil ouvert présente L'effet Lisa, un théâtre musical original inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins. Jenny, le bum, le bon gars, la femme de ménage, l'enracinée du Boomtown Café et l'homme du camp prennent vie en plein cœur d'un feu de forêt, sous le regard tendre et brûlant de Lisa, la lune. D'où vient le tison qui a tout allumé? L'effet Lisa. Dès le 10 juillet, au Centre culturel Desjardins à Joliette. Billets en vente, lesfelisa.ca.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette. CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Il est 16h14. La ville de l'Assomption ne reculera pas sur son projet de parcomètre virtuel pour soulager les problèmes de stationnement au centre-ville. Le maire Sébastien Nadeau a confié à Régent Turgeon là, que le mécontentement ne tient qu'à une poignée de citoyens. Entrevue donc avec le maire Nadeau.
Beaucoup jasé là depuis déjà 2-3 semaines à l'Assomption, les fameux parcomètres virtuels payants, ça crée la controverse. Est-ce que ça vous étonne la réaction qui sont vives à ce moment-ci?
Non, je crois pas. Je pense que c'est normal comme réaction. Je pense que c'est un dossier qui ne peut pas être populaire à la base. Nous, on revient toujours aux enjeux puis aux défis qu'on a à régler. Vous savez, l'Assomption reçoit plus de 5000 étudiants à chaque jour dans son centre-ville et malheureusement, notre cégep n'offre pas de solution de stationnement. Alors, la ville, ça devient le fardeau de la ville. On doit s'assurer de les accueillir convenablement, mais aussi d'assurer une cohabitation avec les citoyens. Vous savez, on a, dans les derniers mois, c'est fréquent que les citoyens citoyen appelle notre service de police pour dire, mais là, il y a des gens qui sont mal stationnés devant chez moi, venez intervenir. Puis là, nous, on se doit de régler de ce problème-là. Parce que là, la police a mauvaise presse. Ensuite de ça, ben, les citoyens sont mécontents. Puis les étudiants veulent toujours être stationnés le plus proche possible du cégep. Alors, on doit développer des solutions alternatives, qui sont des nouveaux stationnements qu'on va intégrer. Mais on ne voulait pas que ce soit le citoyen qui ait le fardeau fiscal de ces nouveaux équipements-là. Alors, on a favorisé la stratégie de l'utilisateur-payeur. Donc, c'est eux qui vont venir financer les infrastructures qu'on va installer. Puis, vous savez, on a rencontré l'association des étudiants du cégep qui sont contents de savoir qu'il y a des solutions qui vont être mises en place. Ils sont moins satisfaits de payer. C'était le cégep de l'Assomption, c'est un des derniers cégeps gratuits. Presque tous les cégeps au Québec ont des stationnements payants. Nous, on l'avait pas ça. Donc, on s'assure que ça soit l'utilisateur payeur.
Mais l'idée, justement, que des gens viennent à l'Assomption et doivent payer pour se stationner, pour passer du temps à l'Assomption, alors que de là, le coût de la vie est élevé, ça semble pas passer. On semble dire il n'y aurait pas d'autre moyen de peut-être financer ce que vous avez appelé la revitalisation du centre-ville, justement.
Bien, vous savez, tous les centres-villes au Québec sont en mode souffrance, sont en mode changement. L'économie se transforme. Les gens achètent de plus en plus en ligne. Sinon, on recherche les grandes surfaces pour avoir des meilleurs prix, avoir plus de choix. Donc, les centres-villes sont en train de se transformer. Et nous, l'Assomption, c'est une très belle ville. C'est une ville qui est magnifique, qui a son charme. Les gens sont bien. Les gens sont bien ici. Et nous, donc, c'est de vraiment s'assurer qu'on soit toujours accueillant. Donc, il y a une partie de ces fonds-là qui vont servir, qui vont être des revenus stationnement pour dynamiser notre centre-ville, pour le transformer. Parce qu'on n'a pas le choix de le transformer. Vous savez, il y a des gens qui craignent ce changement-là en se disant, ben là, c'est déjà difficile. Mais vous savez, reculer il y a 5 ans, il y a des entreprises qui disaient que c'était difficile puis qui sont fermées aujourd'hui. Donc, il faut arrêter on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut adresser le problème. L'Assomption s'est transformée il y a 25 ans. Avec l'arrivée du théâtre, avec l'arrivée des nouveaux restaurants, puis notre centre-ville a pris un nouvel élan. Là, on est rendu à la fin de cette courbe de croissance-là, et il faut relancer la nouvelle courbe. Alors, ça va nous permettre de tenir beaucoup plus d'événements, beaucoup plus d'activités. Puis, quand on regarde les gens, là, on a un stationnement au théâtre, exemple, qui est payant, puis c'est toujours le premier stationnement qui est comblé. Les gens veulent avoir de la proximité. Là, on va parler $1 de l'heure pour être stationné à proximité avec des bons services, puis de savoir que ce dollar-là, ce $2-là, va servir à financer une activité pour laquelle je suis venu. Je pense que c'est une belle contribution, puis ça va nous aider à se positionner.
Est-ce qu'il n'y a pas la crainte quand quelque part les gens refusent de venir à l'Assomption parce que justement, ils ne veulent pas payer pour du stationnement alors qu'on pourrait en rendre peut-être plus de stationnement accessible?
Ben, vous savez, si je fais ça, ça va devenir, c'est le citoyen qui va devoir payer pour ces infrastructures-là. Vous savez, le stationnement, au début, les gens vont réagir. Okay? Ça, comme je vous dis, ça ne peut pas être populaire comme stratégie. Mais au fil du temps, tu vas te rappeler qu'à l'Assomption, tu as des belles activités, tu as une offre culturelle qui est très riche, tu as d'excellentes tables, et de savoir que tu vas laisser $2 au passage pour vivre ces bons moments-là. Vous savez, quand vous allez dans des lieux touristiques intéressants, vous êtes prêt à payer. C'est la destination qui fait la qualité de votre investissement. Alors, de savoir que chez nous, à l'Assomption, cet argent-là ne va pas en taxes, ça va pas servir à financer les infrastructures, mais à financer les spectacles que vous venez voir, les activités, les festivals. Ça fait que notre ville va être encore plus accueillante. C'est que moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être une réaction au début, dans les premières semaines. On pourra sentir ça. Mais je pense que la logique chez les citoyens, puis la recherche de qualité, la recherche de bon temps, la recherche de beaux lieux va prendre le dessus pour $1 ou $2.
On doit comprendre qu'au final, la ville de l'Assomption ne va pas reculer sur cet enjeu des parcs-mètres virtuels payants.
On ne va pas reculer. Effectivement, vous savez, on perçoit que c'est une majorité de citoyens qui est en désaccord, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un petit groupe de citoyens. Si vous regardez ça, là, il y a une dizaine de citoyens qui se relancent mutuellement en rendant ça très terrible. Mais quand moi je croise des gens dans la rue, quand je croise les gens, c'est de se dire, ils veulent comprendre. Ils recherchent des précisions, ça c'est sûr. Mais sur le fond, ils comprennent pourquoi on fait les choses. Et ils sont d'accord que c'est pas à eux à payer pour une installation physique que nos institutions devraient offrir.
Il y aura de la frustration demain soir au conseil municipal, vous allez l'entendre. On s'y prépare, on est prêt peut-être à faire des compromis à quelque part.
Comme je vous dis, ça peut pas être un dossier qui est populaire. Donc, je m'attends à ce que ça soit difficile et ce sera correct comme ça. Mais encore une fois, moi, je suis là pour gérer l'avenir, pour gérer la pertinence, le positionnement stratégique. Donc, s'il y a 2-3 semaines d'impopularité pour nous positionner stratégiquement pour l'avenir, je suis prêt à vivre ça.
Voilà, c'était le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, qui a rencontré un peu plus tôt Régent Turgeon. Il est 16h20. On va parler maintenant de l'affaire Patrick Bruel. On apprend dernière heure qu'une journaliste québécoise affirme avoir été agressée sexuellement par Patrick Bruel. Ça serait passé en 2017 et ça vient d'être publié dans le magazine Elle France et le journaliste Jean Siag de La Presse le rapporte un petit peu là, ce qu'on a publié dans le Elle France qui poursuit son enquête à l'endroit de Patrick Bruel qui a été dénoncé plus d'une trentaine de fois là, par des femmes pour agression sexuelle ou vol. Et aujourd'hui, ben, c'est le témoignage de cette journaliste québécoise qui fait les grands titres du Elle France. Et cette jeune femme aurait signalé son agression à la police de Montréal au mois d'octobre 2017. Elle était âgée à ce moment-là de 28 ans. Journaliste québécoise qui travaillait pour une radio locale francophone qui a témoigné sous le couvert de l'anonymat. Et elle raconte s'être rendue à l'hôtel Sofitel à Montréal le 14 avril 2017 pour une entrevue avec Patrick Bruel qui est à ce moment-là en tournée au Québec là, pour son spectacle Bruel chante Barbara. Et le rendez-vous était prévu dans le restaurant de l'hôtel à 10h45 le matin, mais Patrick Bruel lui a proposé de faire l'entrevue ailleurs parce que, bon, il y avait pas mal de bruit, puis il se sentait fatigué. Chanteur qui et la journaliste ont, à ce moment-là, pris l'ascenseur dans l'hôtel sans l'équipe du chanteur. Et à la grande surprise de la journaliste, ben, ils se sont retrouvés dans la suite de Patrick Bruel. À ce moment-là, la journaliste a mené son entrevue pendant environ 8 minutes. Et une fois l'entrevue terminée, la journaliste a rangé son matériel. Elle a mis son manteau pour se préparer à partir. Mais selon ce qu'elle raconte, Patrick Bruel ne l'aurait pas vu de cette façon-là et aurait essayé de la retenir en lui proposant d'aller déjeuner. Et la journaliste a décliné l'invitation en expliquant que son parcomètre allait expirer puis qu'elle avait 45 minutes de route à faire pour retourner à la station de radio. Et selon elle, Patrick Bruel se serait mis en travers de son chemin devant la porte d'entrée de sa suite et l'aurait serré dans ses bras. Et il aurait dit « C'est bon de te sentir contre moi ». Et là, la journaliste comprend que c'est pas normal ce qui se passe à ce moment-là, que Bruel en veut plus. Il l'a pris ensuite par le visage, il a pris le visage entre ses deux mains pour l'embrasser sur la bouche. La journaliste l'a repoussé et il l'a pris encore une fois, l'a serré contre elle, contre lui en fait. Il l'a serré en lui demandant, la journaliste en question lui demande à ce moment-là de le d'arrêter de la serrer. Elle dit qu'elle tremblait, elle était incapable de bouger. Elle l'a repoussé en lui disant que pour une deuxième fois qu'elle devait partir. Et il a essayé de lui enlever son manteau. Il l'a encore embrassé de force. Et évidemment, elle comprend pas trop comment elle a réussi là, mais elle a ouvert la porte et a réussi à s'enfuir. Et elle a porté plainte quelques mois plus tard, le 5 octobre 2017. Voilà donc, ça retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui. Journaliste québécoise qui affirme avoir été agressée sexuellement par Patrick Bruel en 2017. Et je vous rappelle que en France, il y a plusieurs personnes là, qui ont porté plainte contre Patrick Bruel. Ils sont quoi, environ une trentaine à avoir porté plainte contre Patrick Bruel. Ailleurs dans l'actualité, le chef du Parti québécois veut donner un coup de barre dans le système de justice pour que les criminels violents reçoivent des peines plus importantes. Paul Saint-Pierre Plamondon qui promet que son éventuel gouvernement va pousser les juges à contrecarrer le mouvement actuel qui offre plusieurs arrangements des criminels pour des raisons comme la carrière de l'individu ou son expulsion potentielle du pays. Paul Saint-Pierre Plamondon dénonce aussi la sécurité parfois déficiente en détention. Il affirme aussi qu'il ajouterait que des ressources au ministère de la Justice pour l'embauche de 100 procureurs supplémentaires. Là, il voudrait ajouter des ressources. On va écouter là-dessus Paul Saint-Pierre Plamondon.
Qu'est-ce qu'on fait dans la gestion de nos prisons si un criminel peut continuer ses opérations avec son téléphone intelligent à même sa cellule? C'est quoi cette affaire-là? J'espère ne pas être trop... Je pense que c'est sain des fois de prendre un pas de recul et de dire « Est-ce que c'est normal? » Si c'est pas normal, ben il faut proposer des améliorations.
Et toujours sur la scène provinciale politique, le chef du Parti libéral du Québec croit que la députée de Chomédé, Sona Lacoyanne-Olivier, devrait démissionner de passage à Sherbrooke ce matin pour présenter un candidat. Charles Milliard a répondu à une journaliste qui lui demandait s'il a l'intention de demander la démission de Sona Lacoyanne. On écoute sa réponse.
Je pense que les faits sont assez troublants, donc moi je pense que Mme Sona Olivier devrait démissionner, mais c'est une démission qui lui appartient. Évidemment, l'Assemblée nationale aura à se prononcer aussi sur le rapport du commissaire à l'éthique, mais je ne pouvais pas être plus clair et plus rapide que les actions qu'on a prises hier. Donc, ce sera assurément et résolument tolérance zéro.
Faut rappeler les faits. La semaine passée, la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale a blâmé la députée Sona Lacoyanne-Olivier pour avoir tenu des activités partisanes dans son bureau de circonscription en appui à Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et évidemment, ces activités partisanes-là étaient financées par les fonds publics. Voilà, il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine pour Charles de Gaulle, un peu plus dense à partir de Bourget. Ça le demeure jusqu'à Henri Bourassa. Pour la suite, ça va très bien. On franchit aisément Charles de Gaulle. Oh, attendez voir, je vois que ça commence à congestionner un petit peu en arrivant là sur la rive nord. Nombreux actuellement. Pour la suite, secteur Repentigny, 40 Est, ça se passe bien. Pont Le Gardeur approche facile par Notre-Dame, également par Sherbrooke. La 25 Nord danse à la jonction avec la 440. Secteur Île-Saint-Jean, ça va bien. Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, on circule sans problème. Pont Sophie-Masson, c'est facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640, entre la 25 et la 40 en direction ouest, c'est dense depuis la montée des Pionniers et direction ouest, ça va bien en ce moment. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Besoin d'un service informatique fiable à la maison? Chez Fleet Info, nous offrons réparation, optimisation et une vaste sélection d'ordinateurs et d'accessoires, incluant nos modèles de PC gaming sur mesure. Service rapide et conseils d'experts en magasin. Fleet Info à Joliette et Berthierville.
L'actualité de ce lundi 11 mai, en manchette, Québec va rendre un hommage particulier à des policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions. La guerre au Moyen-Orient, une manne pour les pétrolières. Et un autre maire mécontent du ministère des Transports. Pierre Jubinville, on va rendre hommage à la policière Maureen Brault.
Oui, des panneaux de signalisation seront installés aux abords des viaducs pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime en servant leur communauté. Madame Brault est décédée pour sa part le 27 mars 2023 lors d'une intervention tragique à Louisville. La première ministre Christine Fréchette a profité du début de la Semaine nationale de la police pour remercier les policières et les policiers pour leur travail.
Chaque jour, nos policiers font preuve d'un immense courage. Ils risquent leur vie, puis ils bravent les dangers. Ils sont dévoués, disciplinés et déterminés. Ils ont vraiment de quoi être fiers. Nous sommes très reconnaissants du travail effectué par l'ensemble des policiers. Et collectivement, je suis d'avis qu'on a le devoir de les soutenir et de les appuyer. Et de les remercier également.
Pierre, les pétrolières continuent de faire le plein, mais là, c'est le plein d'argent, j'ai l'impression.
De se remplir les poches, finalement. Ouais. Elles profitent grandement de la guerre en Iran. L'expert en énergie, Yvan Clich, souligne qu'elles vont faire des profits importants cette année, puisque leur pétrole remplace celui qui aurait dû venir du Golfe Persique. Toutefois, le président Trump n'a aucun intérêt à faire durer ce conflit, puisque l'impact sur la population américaine est trop grand.
Pour les compagnies qui produisent, bonne année. Mais pour l'ensemble de l'économie américaine, ce n'est pas une bonne chose, parce que comme les prix sont mondialisés, ça se répercute à les prix de l'essence, les prix du diesel, tout ce qui se transporte coûte plus cher, ça crée une pression inflationniste. Donc, pour l'ensemble des consommateurs américains, c'est pas une bonne chose, et c'est aussi politiquement pas du tout une bonne chose pour le camp républicain et pour M. Trump.
On a remarqué une légère baisse du prix moyen de l'essence dans la région par rapport à vendredi, 1,92 $ en baisse d'un cent le litre. C'est dans la MRC de Joliette où le prix affiché est le plus bas, à 1,88 $.
Oui, j'ai vu ça justement en fin de semaine. Oui. 1,88 $, je suis du côté de l'Assomption, là, quand même, par rapport à Montréal, il y avait une bonne différence. Grève de 24 heures chez Olimel à Berthierville.
Oui, ils ont déclenché une grève aujourd'hui. Les 425 travailleurs syndiqués de l'usine. Il s'agit d'une première de 5 journées prévues dans un mandat de grève accordé au syndicat lors d'une assemblée samedi. Les membres ont rejeté 94% de propositions d'accord présentées par un médiateur. Et la présidente du conseil central CSN Lanaudière, Patricia Rivet, nous éclaire sur les points en désaccord.
Le gros enjeu, là, c'est vraiment le salaire et la cadence qui a augmenté beaucoup sur la ligne de production depuis des années, mais qui n'a jamais eu le salaire a été ajusté en conséquence. Donc, beaucoup plus de poulets qui sort et puis pas plus d'argent pour nos travailleurs. Puis, on comprend que le coût de la vie dans les dernières années a augmenté extrêmement. Donc, ces gens-là se sont appauvris.
Grève de 24 heures chez Olimel à Berthierville.
Une grève du temps supplémentaire, une première chez Hydro. C'est ce qu'a annoncé le syndicat ce matin, qui représente quand même 6200 travailleurs.
J'étais chez Olimel et là, on s'en va chez Hydro, c'est ça.
Ah ben, j'ai pas entendu.
Oui, oui. C'est des moyens de pression chez Hydro-Québec. Oui,
c'est ça. Ils sont sans entente et d'ici mercredi, il s'agira donc de la première grève en 25 ans du temps supplémentaire. Le manque de main-d'œuvre, la mauvaise planification des travaux et un recours excessif à la sous-traitance est dénoncé.
Un autre maire de Lanaudière qui est mécontent du ministère des Transports.
Oui, Robert Chicoine de Notre-Dame-de-la-Merci juge l'état actuel de la route 125 à l'entrée de sa municipalité inacceptable. Il demande une intervention pour assurer la sécurité des usagers. Les photos sont sur notre site web et elles sont éloquentes.
Ça fait pitié, oui. Mm-hmm. Le maire de l'Assomption s'attend à un conseil municipal particulièrement houleux.
Oui, mais il n'entend pas reculer sur le projet d'implantation des parcomètres virtuels dans le centre-ville. Il s'attend évidemment à affronter l'hostilité de citoyens mécontents, mais il précise qu'il s'agit d'une minorité.
C'est effectivement, c'est, vous savez, on perçoit que c'est une majorité de citoyens qui est en désaccord, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un petit groupe de citoyens, si vous regardez ça, là, il y a une dizaine de citoyens qui se relancent mutuellement en rendant ça très terrible. Là. Mais quand moi je croise des gens dans la rue, quand je croise les gens, c'est de se dire, ils veulent comprendre, ils recherchent des précisions, ça c'est sûr. Mais sur le fond, ils comprennent pourquoi on fait les choses. Et ils sont d'accord que c'est pas à eux à payer pour une installation physique que nos institutions devraient offrir.
Dossier santé numérique, maintenant, Pierre, on pouvait s'y attendre, un départ chaotique.
Oui, il y a deux projets pilotes, celui de l'île de Montréal et l'autre en Mauricie, centre du Québec. Et il n'y a pas eu de problème majeur depuis ce matin, mais le système peine à gérer l'afflux de soignants.
avec des activités beaucoup plus nombreuses, Santé Québec s'attend à voir tripler le nombre de demandes d'assistance et de bug par rapport à la fin de semaine. Tôt en matinée, le système démontrait déjà des signes de latence. Pour la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, il s'agit d'un enjeu facile à gérer, alors que la responsable technologique du DSN, Erika Bialy, l'a placé en haut de sa liste.
C'est vraiment en lien avec la capacité de la bande passante, puis ça, bien, ça se corrige.
Toutes les équipes travaillent pour régler ce problème. C'est notre priorité.
Sur le terrain, les soignants s'acclimatent plutôt bien, selon le président de l'Association des radiologistes, le Dr Grégoire Bernèche. Ayant travaillé avec le DSN en Ontario, le spécialiste estime qu'il est un plus, mais se désole de voir que plusieurs actes délégués sont encore attribués aux médecins dans le système.
Eux sauvaient beaucoup de temps à pouvoir déléguer cette tâche-là, et là, ce n'est plus le cas pour l'instant.
Santé Québec prévoit maintenir les effectifs de démarrage pendant un mois. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Et puis en terminant, Pierre, des milliers de Canadiens boudent les États-Unis.
Les visiteurs canadiens dans les grandes villes américaines auraient diminué de 42 % cette année, selon un nouvel outil de recherche qui suit l'activité des téléphones cellulaires. The Guardian écrit que cette donnée est significativement plus élevée que celle provenant des autorités frontalières qui, elles, parlent d'une baisse de 25 % Ah oui, ben c'est sûr. Cet outil démontre que les Canadiens évitent les grandes villes comme New York et les destinations touristiques comme Las Vegas ou Walt Disney World.
Bon, ben, on pouvait s'y attendre, mais là, c'est vraiment la réalité.
Absolument, absolument.
Merci, Pierre Jubinville. Salut, bonne soirée. 16h36.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Affaires municipales.
Oui, juste avant de passer aux affaires municipales, un petit mot de circulation pour vous parler de la métropolitaine pour Charles de Gaulle. Là, c'est très, très lourd actuellement. À l'approche de Charles de Gaulle, je vous dirais là, un bon ralentissement depuis presque le secteur du pont détachement du CN. Là, il se passe quelque chose là, actuellement sur Charles de Gaulle. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. La ville de Joliette qui va bientôt réaliser une étude sur les moyens de contrer les effets des inondations, particulièrement au centre-ville, inondations causées par des refoulements, les infrastructures qui peuvent plus absorber les débits d'eau qui sont engendrés par des fortes pluies, par exemple. François Morin a eu un entretien là-dessus avec le maire Pierre-Luc Bellerose.
Oui, mais il faut quand même s'appeler, là, c'est la démarche dont il est question aujourd'hui. Oui, ça vise à mieux comprendre là, les vulnérabilités du territoire face aux inondations urbaines pour planifier des interventions durables, efficaces puis adaptées là, à la réalité, mais ça n'empêche pas qu'en même temps, il y a des travaux dans les dernières années au niveau de nos infrastructures qui ont été réalisés. Il y en a d'autres aussi qui sont en cours, là, je pense à la Nausière, de la Nausière cette année, Notre-Dame l'année prochaine, mais aussi des demandes d'aide financière qui ont été déposées dans différents programmes, dont le Primo, notamment dans le quartier Sainte-Thérèse, où on a vécu aussi certaines problématiques. Donc, ces deux démarches là qui sont parallèles. Dans ce cas-là, c'est surtout aussi pour voir d'autres solutions alternatives, que ce soit des parcs éponges, des bassins de détention ou des aménagements verts, parce que souvent, on a les flex de penser à la réfection des infrastructures, puis que ça va être la solution miracle, mais ça, c'est un élément parmi d'autres, puis la démarche là, dont on parle aujourd'hui va justement amener cibler des vulnérabilités, puis voir s'il n'y a pas d'autres alternatives complémentaires qui vont venir le pallier aux problématiques au-delà du plan qu'on a au niveau de la défection de nos infrastructures, parce que dans les prochaines années, là, on parle en dizaines puis en centaines de millions là, de dollars qui vont être consentis pour revoir nos infrastructures, parce qu'il y en a qui datent de 100 ans. Là.
Bon, justement, ça date pas d'hier. Là. On les avait déjà identifiés il y a plusieurs années, les problématiques. Je veux pas dire qu'on arrive trop peu, trop tard, mais plus ça va, plus ça coûte cher. On se l'est dit à plusieurs reprises.
Oui, ben c'est qu'auparavant, on avait des aides financières gouvernementales plus généreuses. Puis les chantiers étaient beaucoup moins dispendieux aussi. On vient de faire Saint-Pierre notamment. On parle d'un chantier autour de 13 ou 14 millions. Donc, oui, la moitié à ce moment-ci a été subventionné, mais dans certains cas, si je pense là, dans le quartier Saint-Thérèse, cette année, on avait prévu là, d'aller de l'avant. Malheureusement, il y a eu des coupures au niveau du programme PIMO de 3 millions, ce qui a fait en sorte qu'on a dû reporter les travaux. Donc, oui, les chantiers sont de plus en plus dispendieux. Oui, les subventions sont de moins en moins importantes. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une pression financière exercée sur la ville. Mais malgré tout ça, dans les dernières années, il y a eu quand même plusieurs rues qui ont été refaites. Là, je pense à Piette, La Joie, Saint-Pierre. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements à base de roc aussi. Là, on a la Nosière, Notre-Dame, puis on a aussi des dépôts là, de subventions au niveau du quartier Sainte-Thérèse. Donc, on poursuit là, dans les prochaines années. Sur 20 ans, on parle là, au-delà de 500 millions d'investissements là, facilement. Là.
Et cette annonce d'aide financière survient là dans les heures où la commissaire au développement durable, Jeannick Lambert, a déposé son rapport à l'Assemblée nationale. On fait état là de coûts de remplacement rapides, en fait à plus court terme de 20 milliards, c'est quand même quelque chose.
Oui, mais comme je le disais, les défis sont grands, puis quand on parle uniquement de Joliette, qui doit investir là, Banan Malin autour de 15 millions, puis on doit là, augmenter là, la cadence pour d'ici les 20 prochaines années, vraiment là, assurer la réfection de plusieurs kilomètres de route. Ça prend des investissements importants parce que c'est la base aussi, que ce soit au niveau de notre eau potable aussi, où il va y avoir des investissements au niveau de notre usine. Donc, ça prend des investissements qui sont en adéquation aussi avec les besoins, d'autant plus que des orientations gouvernementales aussi qui viennent exercer d'autres pressions, si on pense au niveau de la densification ou l'obligation de construire des nouveaux logements, mais ça aussi, ça vient là, exercer une pression sur nos infrastructures, qu'elles soient routières, au niveau de l'eau, toute autre infrastructure. Puis ça vient avec de la construction aussi au niveau des écoles. Puis on sait que maintenant, avec la loi 40, les villes doivent acheter les terrains. Donc, il y a beaucoup d'investissements là, à prévoir au niveau de la ville en lien avec les infrastructures là, de tout ordre. Là.
Et si je reviens spécifiquement en terminant sur l'étude en question, est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça commence?
Ben là, les recommandations qui vont être issues de l'étude vont être intégrées progressivement aux travaux qui sont déjà planifiés. Pour l'instant, il n'y a pas d'échéancier comme tel parce qu'on doit avoir aussi là la firme ou disons l'organisation qui va être mandatée pour réaliser l'étude. Puis après ça, ben on va pouvoir, comme je l'expliquais, intégrer ça aux travaux déjà planifiés, déjà budgétés. Donc, c'est dans les prochains mois là qu'on va pouvoir là, répondre plus précisément là, à ces questions-là.
Voilà, c'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Belrose, 16h42 dans un moment avec Pierre Paquette. On parle de l'éventuel référendum sur l'indépendance de l'Alberta et de la loi sur la clarté référendaire.
Votre toiture est due pour un remplacement? Chez les Toits Idéal et Permanents Inc., on vous offre la tranquillité d'esprit avec des produits durables et une installation impeccable. En collaboration avec notre fournisseur Idéal Revêtement, renommé depuis 1929, nous installons le bardeau Wakefield Bridge, reconnu pour sa résistance et son look haut de gamme. Et pour un temps limité, un rabais vous est offert sur l'acier canadien. Profitez d'une promotion allant jusqu'à 2000 $ de rabais. C'est le moment parfait pour protéger votre maison et économiser gros. Appelez maintenant 1-888-623-4050. Visitez www.toitureidéal.com. Les Toits Idéal et Permanents Inc., la qualité qui protège votre maison pour longtemps.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-5880. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implants permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. Appelez-nous pour en discuter. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Ah, Marie-Lou! Est-ce que je peux avoir un autographe?
Avec plaisir!
Ici, sur la publicité de l'événement Avantage Hyundai.
À côté de l'offre?
Oui, juste à côté de l'offre de location de l'Elantra Essential 2026 à partir de 72 $ par semaine, avec 0 $ d'acompte, incluant le boni du printemps de 1 000 $.
Et la meilleure garantie sur voiture neuve de sa catégorie.
Oui, garantie 5 ans!
OK, donc là, tu veux que je signe l'écran de ton téléphone? Avec un marqueur permanent?
Oui, juste en dessous du 0 $ comptant.
OK, pas trop.
Location 60 mois au taux de 4,99%. Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut, bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Sujet qui tombe pas mal dans tes cordes aujourd'hui. On va parler de cet éventuel référendum sur l'indépendance de l'Alberta et évidemment de la loi sur la clarté référendaire. On pourrait s'enligner pour un référendum cet automne. Il y a eu une grosse pétition en Alberta, là.
Oui, oui, oui. Puis bon, actuellement, Élections Alberta est en train de regarder la validité des noms qui ont été amassés. Ça prenait 300 000. Ils ont eu plus que ça. Et finalement, le référendum va avoir lieu le 19 octobre. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça va être 2 semaines avant le 5 octobre à Québec.
Au Québec.
Ça va avoir sûrement, au Québec, ça va avoir sûrement une influence importante sur la façon dont la campagne va se dérouler.
Oui, justement, c'est que ça arrive à un moment assez curieux. Est-ce que ça pourrait être positif pour le Parti québécois, négatif?
Moi, je pense que ça va peut-être dédramatiser un peu le fait de tenir un référendum. Si l'Alberta tient un référendum, nous, on en a tenu déjà 2. Pourquoi pas un 3e, là? Et évidemment, je m'attends pas à ce que le oui l'emporte en Alberta, mais ça dédramatise de beaucoup cette situation-là. Et d'autre part, ça va obliger le gouvernement fédéral, on a déjà vu M. Carney se compromettre à mettre ses cartes sur la table concernant qui va décider de la question, qui va décider du seuil. Alors, ça va être très important, et je pense que ça peut avoir une influence sur l'élection québécoise.
Il faut rappeler qu'il y a un mouvement indépendantiste depuis longtemps en Alberta. Il y a même un parti souverainiste qui n'a pas d'élu, mais quand même, les Albertains voudraient, de nombreux Albertains voudraient donc se séparer carrément du Canada, et qui sait, peut-être devenir un 51e État américain. Là.
Exactement. C'est là où c'est un peu différent de la dynamique québécoise, où les souverainistes québécois veulent avoir leur pays pour justement utiliser tous les outils qui sont à la disposition et à titre complet, alors que pour beaucoup d'Albertains souverainistes, ben c'est la chance de se rattacher aux États-Unis. Alors c'est là où la différence est. Mais par contre, l'encadrement des lois est la même. Alors c'est là que ça va être intéressant, parce qu'on se rappelle qu'après le référendum de 95, que le gouvernement fédéral, le camp du non a failli perdre par quelques milliers de voix, ben Jean Chrétien a voulu un peu serrer la vis pour s'assurer qu'il y aurait le contrôle sur l'organisation du prochain référendum, et il a adopté, on a parlé tout à l'heure, la loi sur la clarté, qui fait en sorte que la question devra être une question qui fait l'affaire d'Ottawa, alors que en 80 et en 95, au Québec, c'est l'Assemblée nationale qui décide la question. Et c'est le seuil n'est plus 50% plus 1 automatiquement. C'est Ottawa aussi qui va déterminer si le seuil est acceptable ou pas. Alors ça, c'est une loi, évidemment, qui bafoue complètement les droits de l'Assemblée nationale, mais aussi de l'Assemblée législative albertaine. Alors ça va être intéressant de voir comment les élus albertains vont se positionner, aussi bien sur la scène provincial que sur la scène fédérale. Alors, c'est à suivre.
Mais ici, au Québec, tous les chefs de parti sont unanimes. Ça se décide à Québec, là.
Ben oui. Enfin, on a eu deux référendums en 80 et en 95, puis à chaque fois, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé de la question, et le seuil de 50% plus 1. Et ça n'a jamais été remis en question à ce moment-là par les députés québécois au fédéral, peu importe les partis. Peu importe d'ailleurs qu'ils soient sur la scène fédérale ou provinciale, pour les Québécois, c'était clair que c'était l'Assemblée nationale qui décidait de la question et du seuil. Bon, je pense que là, Jean Chrétien et puis Stéphane Dion ont eu peur et donc ils ont voulu adopter cette loi sur la clarté. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été soumis à la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit, ben la loi sur la clarté, il faudrait la bonifier en mettant une obligation de négocier. Alors, si, par exemple, le Québec ou l'Alberta décidaient, soit par une loi, soit par un référendum, de se séparer du reste du Canada, ben il y a une obligation du gouvernement fédéral et des autres provinces de négocier avec cette province ou avec le Québec. Et donc, Jean Chrétien n'était pas très, très content. Ça s'est passé en 98. Et il a quand même adopté la loi sur la clarté référendaire sans tenir compte de l'avis de la Cour suprême. Et donc, actuellement, on a une loi sur la clarté qui ne correspond absolument pas à l'obligation de négocier que la Cour suprême a indiqué dans son renvoi ou sa décision en 98. Et cette loi-là n'a jamais été contestée. Je pense que le gouvernement, dans le temps, c'était Lucien Bouchard, n'a pas voulu la contester parce qu'il avait peur de perdre, parce qu'on, comme disait Duplessis, la Cour suprême penche toujours du...
Oui.
Mais en même temps, elle n'a jamais été testée devant la Cour suprême. Et il se peut très bien que les souverainistes albertains, eux, veuillent tester cette loi-là devant la Cour suprême, qui va peut-être pas être d'accord avec le fait qu'on n'ait pas tenu compte de sa recommandation d'inclure dans la loi une obligation de négocier pour les provinces et le gouvernement fédéral si une province décide de vouloir quitter la Confédération. Alors, ça va être intéressant à suivre. Ce n'est peut-être pas les souverainistes québécois qui vont le faire comme démarche. C'est peut-être les souverainistes albertains. Encore une fois, on parle de deux souverainetés bien différentes.
Et chose certaine, Pierre, c'est qu'il y a quelqu'un qui va marcher sur des coquilles d'œufs s'il y a un référendum au mois d'octobre en Alberta. C'est Pierre Poilievre.
Oui, ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de ces souverainistes, je dirais comme ça, ou séparatistes, là, pour faire mon méchant Jean Chrétien, qui sont aussi des partisans conservateurs. Alors, l'équilibre va être difficile pour lui, ça c'est évident. C'est aussi bien en Alberta qu'en Saskatchewan, parce que la Saskatchewan aussi il y a des évités oui. À se séparer.
Et si les Albertains veulent aller en référendum, c'est parce qu'ils sont pas mal tannés de voir un gouvernement libéral au pouvoir à Ottawa. C'était vraiment le cas dans le cas à l'époque de Justin Trudeau, mais ça le demeure encore aujourd'hui avec Mark Carney.
Oui, ça le demeure encore. C'est un petit peu moins fort. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'avec les frasques de M. Trump, il y a beaucoup d'Albertains actuellement qui font confiance à M. Carney pour trouver une solution et nous ramener sur la voie de la croissance économique. Et donc là, ça va peut-être mêler les cartes au mois d'octobre prochain.
Ben, ce sera très intéressant à suivre. Pierre Paquette, merci beaucoup.
C'est sûr, merci.
On se reparle mercredi. Voilà, il est 16h53.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Bon, maintenant, il y a la ville de Repentigny qui sait bien ce que c'est que de gérer de l'eau potable. Comme ailleurs, on doit à Repentigny composer avec une hausse des coûts d'entretien, des infrastructures de production, également de distribution. Mais à Repentigny, on a pris certaines décisions il y a quelques années pour réduire la consommation d'eau. Et François Morin en a discuté avec le maire Nicolas Dufour, qui, soit dit en passant, est honoré par l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. On écoute l'entretien de François Morin avec le maire Dufour.
J'ai reçu de l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent là, un prix reconnaissance comme membre de l'année pour le travail infatigable qu'on a fait autant au niveau de la ville que moi pour les représentations pour la protection de l'eau, puis aussi les investissements nécessaires en infrastructure d'eau. Donc, on a fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement fédéral dans la dernière année, auprès du gouvernement provincial. Donc, c'était une belle reconnaissance de tout le travail là, qu'on a accompli dans la dernière année.
Et au cours des derniers jours, l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, bon, on a discuté effectivement beaucoup de protection de l'eau potable.
Oui, c'est un des plus gros enjeux, puis on le voit, hein, c'est autant au Canada qu'aux États-Unis, on a des infrastructures en eau qui sont vieillissantes, on a très peu d'investissements de la part des paliers supérieurs. C'est ce qu'on s'est rendu compte tous les maires, hein, parce que la rencontre de l'Alliance, c'est avant tout des maires, autant du côté américain que canadien que québécois, et on a tous le même constat, nos États nationaux ou provinciaux nous aident très peu en matière d'investissement d'infrastructures en eau, un désengagement. Ça amène bien sûr des problématiques, je pense aux États-Unis, là, des problématiques de santé publique, de développement économique. On a la même chose avec nos Premières Nations. Donc, ça nous rappelle l'importance d'investir dans nos infrastructures en eau parce qu'on s'en rend peut-être pas compte. C'est un automatisme quand on ouvre le robinet que ça coule. Mais si on s'en occupe pas, ben c'est des problèmes de santé publique qui nous guettent. C'est des problèmes de développement économique, de développement d'habitation. C'est tout interrelié. On le sait, l'eau, c'est à la base de la vie. Alors, si on n'investit pas dans nos infrastructures, on va éventuellement frapper un mur.
Il n'y a pas que des hasards dans la vie, monsieur le maire. Vous en conviendrez, pas plus tard que jeudi dernier, la commissaire au développement durable, Jeannick Lambert, qui a déposé son plus récent rapport à l'Assemblée nationale. Elle parle d'une valeur de remplacement de 188,5 milliards pour les infrastructures municipales d'eau potable, usée et pluviale, et des coûts de remplacement à court terme qui sont évalués à 20 milliards.
Ah oui, puis on le voit, hein, elle dit que dans son rapport, là, il y a jusqu'à 10 % des infrastructures en eau au Québec qui sont dans un état critique. Si on n'investit pas, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes de santé publique qui s'en viennent. Je sais que le montant a de l'air gros, 20 milliards, mais en même temps, il y a des solutions. Moi, je pense par exemple à Repentigny, les compteurs d'eau. Bien, c'est sûr et certain que ça permet une meilleure gestion, ça permet une rationalisation, ça permet aussi aux gens, le concept d'utilisateur-payeur, de payer le vrai prix, le juste prix de ce que coûte l'eau. Donc, il y a des solutions qui sont apportées demain. Le gouvernement fédéral investit de l'argent, met beaucoup d'argent sur la table, mais maintenant, il n'y a toujours pas d'entente entre Québec et Ottawa sur le financement des infrastructures. Alors, espérons que son rapport serve de réveil à tous.
Bon, évidemment, là, j'allais en arriver là cette entente qui n'a pas été signée par le gouvernement du Québec. Puis en attendant, il faut tenter quand même de faire du neuf avec du vieux.
Effectivement, c'est le défi. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est sur les épaules des municipalités que les investissements reposent parce que on est au front, on est à la première ligne. Si un tuyau d'aqueduc pète, c'est la ville qui va rapidement essayer d'aller le réparer. Puis on commence à voir qu'il y a des municipalités qui payent leur infrastructure en eau de leur côté parce qu'ils sont toujours en attente du programme Primo, à titre d'exemple, avec le gouvernement du Québec. Donc, ils se disent, bon, on n'a plus le luxe d'attendre le gouvernement du Québec, on va investir de notre côté. Pendant ce temps-là, ben, c'est le citoyen qui paie, alors que le gouvernement fédéral et provincial pourraient juste très bien s'entendre, signer une entente, puis s'assurer que les impôts qu'on a payés à Ottawa servent aussi au Québec.
Et compte tenu justement de l'état des infrastructures, ce sera ma dernière question, est-ce que les municipalités risquent d'être contraintes de faire des choix douloureux?
Ah, ça c'est inévitable, on s'en dirige vers des années qui vont être difficiles en matière de gestion financière des municipalités, puis on va être dans l'obligation de faire des choix critiques entre s'assurer de rénover une infrastructure en eau qui est à la base ou rénover un parc, rénover des rues, rénover certaines installations, puis ce qui est plate, c'est que pendant ce temps-là, ben les autres installations vont se dégrader, ça va que nous coûter plus cher dans quelques années pour réparer certaines rues ou certaines infrastructures publiques. Alors, je pense qu'il y a un grand coup à donner, puis espérons que tout le dialogue qui s'est entamé il y a quelques semaines, quelques mois, là, on sent que la question des coûts d'infrastructure, des investissements d'infrastructure revient à l'avant-plan. Alors, espérons que ça fasse bouger nos paliers de gouvernement. Mais à Repentigny, ça fait depuis 2021 qu'on a décidé d'investir 90% de nos budgets dans le maintien des actifs. C'est peut-être pas sexy, mais je pense que les gens comprennent aujourd'hui qu'être un bon gestionnaire, c'est ça.
Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, que François Morin a eu l'occasion d'interviewer un petit peu plus tôt, là, qui a été honoré par l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Rappelons cette dernière nouvelle, cette nouvelle qui retient l'attention là, cet après-midi dans l'actualité. Une journaliste québécoise qui affirme avoir été agressée sexuellement par le chanteur et comédien Patrick Bruel en 2017. Voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Je remercie et salue nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Nous, on sera là demain 16h pour une autre édition de Lanaudière PM.